Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. La canicule continue de gagner du terrain en France. Cette nuit a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays depuis le début des mesures en 1947, selon Météo France. La canicule a provoqué 40 morts par noyade depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes, selon le Premier ministre Sébastien Lecornu. Au Liban, des tirs israéliens ont fait 2 morts dans le sud du pays. Le Hezbollah dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Nous l'avons évoqué dans les titres, après des records de température cette nuit, la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1947, la canicule exceptionnelle qui frappe le pays s'étend encore aujourd'hui avec des pics attendus à 44 degrés dans le sud-ouest. Plus de la moitié du pays est placé en vigilance rouge par Météo France, là encore un niveau jamais atteint avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule en cours de journée et 35 autres en orange. Plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes. Environ 1800 établissements scolaires sont fermés en raison de la canicule et 8000 autres ont été obligés d'adapter leur horaire sur un total de 60 000 en France, selon le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Et la canicule a provoqué 40 morts par noyade depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes, selon le Premier ministre Sébastien Lecornu. Cette nouvelle canicule impose notamment la question de l'isolation des logements et met en lumière des inégalités sociales. L'invité de Pluriel ce soir à 19h sera le président du département de la Seine-Saint-Denis où plus d'un habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Stéphane Troussel.
Sur la mauvaise isolation des logements, c'est tout le retard qui a été accumulé dans notre pays sur le plan massif de rénovation thermique des sociaux ou des copropriétés dégradées. Le président de la République avait promis un plan ambitieux sur ces questions-là. Ce que je constate, c'est que les aides en direction des collectivités locales ou des bailleurs ou des propriétaires modestes ne cessent de se réduire. Et donc ça, c'est une. On repousse sans cesse dans notre pays la nécessité d'atténuer et d'adapter. Et donc, à force de repousser sans cesse, eh bien, on est confronté à ce type d'épisode sans en être suffisamment préparé.
Et pour les personnes les plus précaires, est-ce que vous, en tant que président de la Seine-Saint-Denis, vous avez des prérogatives ?
Les prérogatives que nous avons, c'est dans le cadre de nos aides sociales pour soutenir les gens quand ils sont en difficulté et toutes les aides légales qu'un département est amené à poursuivre. Et d'ailleurs, en dépit de ces épisodes climatiques extrêmes, l'ensemble de nos services sociaux s'adaptent pour pouvoir continuer, bien évidemment, d'accueillir les gens, alors même que parfois il y a des réductions d'activité, soit liées aux locaux, soit liées à l'indisponibilité aussi de nos propres agents quand, par exemple, les établissements scolaires ne fonctionnent pas. Et c'est en cela que je dis, finalement, on s'est aussi organisé un peu comme on l'a été pendant le Covid pour maintenir de l'activité et pouvoir être toujours disponible pour les gens les plus vulnérables.
Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, au micro de François-Xavier de Calonne. Et comment les villes s'adaptent à Crône dans l'Essonne, le maire Michael Damiati appelle à penser au-delà de l'urgence. Végétalisation des cours d'école, lutte contre les îlots de chaleur, mais pour les communes, ces transformations ont un coût important dans un contexte budgétaire déjà contraint. Écoutez Michael Damiati, maire de Crône.
C'est vrai, cette question doit se prendre sur le long terme. Là, pour le moment, on gère une crise immédiate, mais il faut pouvoir se projeter. Alors à Crône, on a la chance d'avoir de nombreux espaces verts, une rivière qui passe. Mais néanmoins, cette réflexion, on doit également la mener. Je pense notamment les cours d'école qui méritent d'être végétalisés, de repenser aussi les éléments qui pourraient être débitumés pour en faire des espaces moins énergivores et qui captent moins la chaleur. Donc cette réflexion, il faut qu'on la mène. Néanmoins, on ne peut pas la mener seule, parce que vous imaginez bien que tous ces travaux nécessitent des financements importants et que là aussi, on est face à une équation difficile à résoudre avec des besoins qui augmentent et une nécessité d'adapter en effet la ville à ces crises climatiques, que ce soit les inondations parfois en hiver ou la canicule en été, et aussi les restrictions budgétaires que nous subissons. On se trouve un petit peu coincé entre ces deux injonctions, et il est de plus en plus difficile de trouver des solutions. C'est pourquoi on a besoin réellement des pouvoirs publics pour nous aider dans ce changement, dans ces adaptations à prévoir pour les années futures.
Michael Damiati, maire de Crône, au micro de Nadia Bencher. Et 58 départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir de demain midi, selon Météo France. Dire toute la vérité sur le coût climatique de l'intelligence artificielle, c'est ce que réclame le secrétaire général des Nations Unies au grand patron du secteur. Le chef de l'ONU annonce le lancement d'une initiative pour la transparence environnementale dans le domaine de l'IA. Clara Dubanchet, vous revenez sur ces déclarations.
À Londres, le thermomètre frôle les 40 degrés, alors que la capitale britannique se prépare à des températures records dès demain. L'ironie veut que Londres accueille cette semaine une série d'événements consacrés à la lutte contre le changement climatique. C'est dans ce contexte qu'Antonio Guterres, le chef de l'ONU, a appelé le monde à agir avec beaucoup plus d'urgence face au réchauffement climatique. Pour lui, les responsables des crises énergétiques et climatiques sont connus. D'un côté, les énergies fossiles, de l'autre, les centres de données. Rendez-vous compte, on parle d'une consommation de 448 TWh d'électricité en 2025 pour ces entrepôts de serveurs. À l'échelle mondiale, ça veut dire que l'IA consomme presque autant d'électricité à l'année que la France, qui se classe elle-même à la 10e place des plus gros consommateurs. Autrement dit, l'IA, c'est un ogre de l'énergie.
Alors comment on explique qu'une telle consommation d'énergie reste encore si peu connue du grand public ?
Justement, Antonio Guterres dénonce l'ignorance dans laquelle les communautés sont souvent laissées par rapport à l'impact environnemental de ces infrastructures, qui sont pourtant devenues en quelques mois le symbole suprême de la modernité technologique. Profitant de la semaine d'action climatique de Londres, le chef de l'ONU exige donc davantage de transparence. Il demande aux géants de l'IA, entre autres Anthropic, Google, OpenAI, de mesurer et de publier l'empreinte environnementale de leur activité, qu'il s'agisse des émissions de carbone ou de la consommation d'eau. Et il les appelle surtout à s'engager à fonctionner avec des énergies renouvelables d'ici la fin de la décennie.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. Dans l'actualité au Moyen-Orient maintenant, au Liban, des tirs israéliens ont fait 2 morts dans le sud du pays. Le Hezbollah dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Et le président libanais a dit aujourd'hui refuser l'occupation israélienne dans le sud de son pays et toute autre ingérence étrangère au moment où s'ouvre à Washington une 5e session de négociation avec Israël, auquel s'oppose le Hezbollah pro-iranien. L'Iran a refusé l'accès à ce stade d'inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique à des sites clés bombardés, alors que Donald Trump a assuré que Téhéran acceptait des inspections nucléaires du plus haut niveau. Et dans le cadre de cet accord entre l'Iran et les États-Unis, la France sera particulièrement attentive au sort du Liban, au programme nucléaire qui doit être encadré et à la restauration du détroit d'Ormuz, selon le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot.
Et c'est à l'issue de ce G7 qu'à Versailles, le président des États-Unis a signé, non pas un traité, mais un mémorandum d'entente mettant fin aux hostilités et ouvrant une phase de 60 jours permettant des négociations conduisant à l'ouverture, à la réouverture du détroit d'Ormuz, mais aussi à l'encadrement du programme nucléaire iranien. Dans ce contexte, la France sera particulièrement attentive à 3 éléments. Le premier, c'est le sort du Liban, pays frère, entraîné dans cette guerre contre son gré par le Hezbollah et aujourd'hui occupé en partie par les forces armées israéliennes. Il est indispensable que le calme revienne, que les hostilités cessent, que le désarmement du Hezbollah puisse commencer et que l'armée israélienne puisse se retirer et restituer à l'État libanais le contrôle plein entier de son intégrité territoriale. Le deuxième sujet, c'est le programme nucléaire qui doit être strictement encadré car il touche à nos intérêts de sécurité. Le troisième sujet, c'est évidemment la restauration pleine et entière, sans entrave et sans blocage du détroit d'Ormuz. C'est en ce sens que j'ai échangé avec mon homologue qatari lundi à Lucerne à l'issue des négociations pour lui faire entendre que la France, qui devra le moment venu lever des sanctions, sera attentive à ces 3 sujets.
Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a atteint sur la journée d'hier un niveau record depuis le début de la guerre. On reste au Moyen-Orient. Une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU accuse Israël de cibler les enfants palestiniens dans la bande de Gaza et dénonce, je cite, un génocide en cours. Dans l'actualité, en France, le gouvernement a prononcé de premières sanctions contre une magistrate et deux gendarmes du Gers après la publication des conclusions d'un rapport déclenché par la mort de la jeune Liana qui fait état de nombreux dysfonctionnements. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin est revenu sur ses conclusions à l'Assemblée nationale cet après-midi.
15 jours après, les promesses faites du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre avec le ministre de l'Intérieur, nous avons commandé une inspection que nous avons rendue publique. Cette inspection, elle est connue désormais de tous les Français qui peuvent en effet y lire, dans le cas tout particulier de l'affaire Liana et singulièrement de la plainte déposée en août 2025 par les parents de Rosa, le constat accablant de dysfonctionnements extrêmement graves, qu'il s'agisse de la gendarmerie nationale pour lequel des mesures conservatoires ont été prises par le ministre de l'Intérieur ou du fonctionnement du parquet d'Auch. Ce qui s'est passé dans l'affaire Liana, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle loi. Il n'y avait pas besoin de davantage de moyens. Il fallait, comme ça a été fait au parquet de Toulouse avec la gendarmerie de Haute-Garonne, appliquer avec la même célérité les instructions données et sans doute les réactions qu'il y avait un pédocriminel qui malheureusement continuait à faire sur d'autres enfants, sur d'autres victimes, ces affreux sévices. Et puis il y a d'autres questions qui se posent dans toutes les dizaines d'autres milliers de plaintes où en effet il peut manquer de moyens, d'OPJ, d'unités médico-judiciaires, d'experts, parfois de numérisation. Vous avez parfaitement raison. Pendant 3 ans et demi, et vous avez été un de ces députés qui m'ont accompagné, j'ai fait l'impôt à la source, et d'un monde papier au ministère des Comptes publics, vous avez désormais démontré qu'il n'y avait plus aucun papier, une totale numérisation, un grand service public rendu par la Direction générale des finances publiques quand vous payez vos impôts. En 4 ans au ministère de l'Intérieur, il fallait déposer des plaintes en ligne, physiquement au commissariat ou à la gendarmerie, où son permis de conduire, tout était en papier. Désormais, tout est dématérialisé. Et voilà un an que je suis ministre de la Justice. Il y avait 2 tribunaux numériques quand je suis arrivé. Il y en a 161 au moment où je vous parle. Il faut continuer à faire ce travail comme l'ont demandé les inspections. On a besoin de moyens, mais nous le terminerons avant la fin de ce mandat.
Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Et Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a annoncé que le texte de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, très attendu par les députés, serait examiné à l'Assemblée en septembre ou en octobre, précisant toutefois que de nombreuses mesures pourraient être adoptées avant cette échéance. Et enfin, Emmanuel Macron fait entrer ce soir au Panthéon l'historien Marc Bloch, soldat et résistant assassiné par la Gestapo, et Simone Vidal, son épouse et bras droit, lors d'une cérémonie d'hommage. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.